Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawal El Amouchi. Au sommaire de cette édition, la France et le Maroc ont confirmé le réchauffement et le renforcement de leurs relations à l'occasion de la visite du Premier ministre Sébastien Lecornu à Rabat. Une visite du roi Mohamed VI à Paris est à l'étude. Face au pire incendie en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Emmanuel Macron est venu soutenir les acteurs mobilisés dans la forêt de Fontainebleau, dont 2000 hectares ont été ravagés. Affaire Jubilard, 10 jours après les aveux de Cédric Jubilard, les gendarmes ont entamé des fouilles pour retrouver le corps de Delphine Cagnac-Lémine dans le Tarn. Des ossements ont été découverts. Une confiance retrouvée, la France et le Maroc ont affiché aujourd'hui à l'occasion d'une visite du Premier ministre Sébastien Lecornu à Rabat. Le réchauffement engagé par Emmanuel Macron et le roi Mohamed, dont une visite à Paris est à l'étude. Le Premier ministre français a évoqué la prochaine signature d'un traité d'amitié hors norme entre les deux pays.
Cette rencontre va aussi nous permettre de cheminer vers un autre moment important que nous attendons avec impatience. C'est évidemment la visite d'État de Sa Majesté en France, qui devrait pouvoir déboucher sur un traité d'amitié hors norme, celui-ci, allant encore au-delà du partenariat d'exception renforcée qui avait été décidé lors de la visite d'État du président de la République. Pour nous, vous l'avez compris, le sens de cette présence ici, aujourd'hui, hier au soir, avec autant de ministres, c'est essayer de changer d'échelle dans la relation bilatérale, changer d'échelle pour nous-mêmes. Beaucoup de thématiques vont être évoquées, mais je le dis aussi devant la presse, monsieur le chef de maman, changer d'échelle entre nous pour les autres. C'est vrai dans la relation que vous entretenez avec l'Union européenne, sur laquelle nous entendons être un port d'amarrage de cette relation historiquement, mais aussi pour demain, mais aussi d'ailleurs de l'ensemble aussi de nos intérêts convergents pour l'ensemble du continent africain. Et je ne peux pas de nouveau ne pas citer les intérêts de sécurité, les grands enjeux aussi démographiques, les enjeux environnementaux qui frappent le continent. Et donc, au fond, cette réunion de travail, je le dis devant la presse, elle est là aussi pour permettre à nos deux chefs d'État de prendre des décisions historiques, je le crois, dans les toutes prochaines semaines et les tout prochains mois. En tout cas, du fond du cœur, et protocolairement, et diplomatiquement, mais aussi très personnellement, nous sommes heureux d'être avec vous ce matin.
Le Premier ministre français Sébastien Lecornu, qui est également revenu sur la position de la France concernant le Sahara, dont la souveraineté marocaine a été reconnue par Emmanuel Macron à l'été 2024.
La France se tient aux côtés du Maroc, loyalement et fidèlement. Nous savons, monsieur le chef du gouvernement, l'importance cruciale que la question du Sahara revêt pour votre pays. Et vous savez la clarté de notre position. Le président de la République l'a exprimé dans sa lettre à Sa Majesté le Roi pour la fête du trône le 30 juillet 2024. Cette position, je le redis ici, est intangible. Elle ne variera pas et comme vous le savez, nous en tirerons toutes les conséquences.
Sébastien Lecornu, Premier ministre français. En Algérie, un incendie dans un orphelinat de la banlieue d'Alger a fait au moins 11 morts, dont plusieurs enfants cette nuit. Alors que le pays, confronté à une canicule, a recensé près d'un millier de départs de feu en seulement une semaine. Au Moyen-Orient, les États-Unis et l'Iran ont de nouveau échangé des frappes après plus d'une semaine de bombardements. L'Iran a condamné les frappes américaines menées durant la nuit dans le sud-ouest du pays, à proximité d'un hôpital pour enfants à Avaz, un acte qualifié par Téhéran d'attaque barbare. Le ministre israélien de la Défense a exprimé la détermination d'Israël à maintenir ses forces déployées dans des zones de sécurité établies au Liban, en Syrie et dans la bande de Gaza. Et des familles israéliennes se sont installées aujourd'hui sur une zone située sur le mont Ebal, surplombant la ville de Naplouse dans le nord de la Cisjordanie occupée, selon un conseil représentatif des colons dans cette région, dans un contexte de forte expansion des colonies. En France, face au pire incendie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le pays, Emmanuel Macron est venu soutenir ce matin les acteurs mobilisés dans la forêt de Fontainebleau, dont 2000 hectares ont été ravagés, prévenant qu'il n'y aurait aucune tolérance pour les incendiaires. Et deux ouvriers et le gérant d'une société de travaux vont être présentés à un juge en vue de leur mise en examen pour leur implication involontaire dans le déclenchement du premier incendie en forêt de Fontainebleau, selon la procureure. Et Météo France a annoncé la levée de la vigilance orange canicule dans 7 départements et dans l'ensemble de l'Île-de-France dès ce soir. L'épisode caniculaire continue donc de régresser dans le pays. Nous l'avons évoqué dans les titres il y a un peu plus d'une semaine. Cédric Jubilard avouait par écrit avoir tué sa femme Delphine, disparue en 2020. Hier, il confirmait devant la justice ses déclarations. Et ce matin, étape tant attendue pour les proches de Delphine, les enquêteurs sont conduits par son ex-mari à l'emplacement où il aurait dissimulé le corps. Des ossements ont été retrouvés, Clara Dubanchet.
Oui, Nawal, des ossements humains ont été retrouvés sur les lieux indiqués aux autorités par Cédric Jubilard. Le procureur général de la cour d'appel de Toulouse l'a confirmé dans une déclaration à l'AFP. Le peintre plaquiste était lui aussi présent sur place, accompagné de ses avocats Guy et Pierre de Buisson. Pour les proches de la victime, les longues années d'attente devraient bientôt arriver à leur terme. Afin d'établir si ces ossements sont bien ceux de Delphine Jubilard, ils sont acheminés en ce moment même vers le laboratoire de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale près de Paris.
Et comment expliquer autant de progression en une dizaine de jours seulement, plus qu'en 5 ans et demi d'enquête ?
Revenons d'abord, il y a un an, lorsque une ex-compagne de l'accusé rapporte aux enquêteurs une confidence de Cédric Jubilard, il lui aurait avoué avoir étranglé sa femme avant de transporter et de brûler le corps. Sans preuve formelle, ni aveu, ni corps, le père de famille est condamné en octobre dernier à 30 ans de réclusion criminelle, tout en clamant son innocence. La cour s'appuie alors sur le témoignage du fils aîné qui affirme avoir vu ses parents se disputer lors de cette soirée de décembre 2020, ou encore en s'appuyant sur la géolocalisation du téléphone de Delphine, toujours dans la zone de son domicile. Après sa condamnation, Cédric Jubilard change de conseil. Ce sont ces mêmes avocats qui ont diffusé ses aveux à la presse lundi dernier. Sa confession serait due à un besoin de parler, jusque-là verrouillé par la pression médiatique et celle des enquêteurs, comme l'expliquait son conseil Pierre de Buisson. On observe donc un changement de ligne de défense qui intervient avant son procès en appel à partir du 21 septembre à Toulouse. Un procès jugé impossible de se tenir comme prévu par la défense.
Merci Clara Dubanchet pour toutes ces précisions. La Grande Mosquée de Paris célébrait ses 100 ans hier. Inaugurée en 1926, ce lieu de culte a été édifié en hommage aux soldats musulmans morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale, comme le souligne l'actuel recteur Chemseddine Hafiz.
La Grande Mosquée de Paris, depuis sa création, il ne faut pas oublier que, comme l'a dit Monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est une dette de sang. Il y a des milliers de morts musulmans pour que vive la France. Ce jour-là, ils se sont sacrifiés notamment à Verdun, dans les tranchées. Et pour cela, les autorités de l'époque ont décidé d'ériger une mosquée pour remercier les musulmans de ce sacrifice. Ben, depuis ce moment, comme je l'ai dit, ce n'est pas un caprice. C'est véritablement à la fois un deuil et une gratitude. Cette relation, je dirais, entre les musulmans et la République, elle s'est scellée au moment de la création de la Grande Mosquée de Paris. Je pourrais même dire que l'islam est rentré par la grande porte de la République, puisque, regardons ce lieu magnifique, il est où ? Il est à côté du Jardin des Plantes, il est à côté de Notre-Dame, à côté de la Sorbonne, à côté du Panthéon. Il est en plein milieu de ce qu'on appelle le quartier latin, c'est-à-dire le quartier des intellectuels, le beau Paris, comme on pourrait dire. Et donc, ce n'était pas un cadeau, je dirais, à bas bruit qui a été fait à l'époque. Ben, je crois que le message qui est important aujourd'hui, lorsqu'on fait ce constat pour l'avenir, notamment pour nos enfants de confession musulmane, soyez à la fois fiers d'être musulmans, mais en même temps, soyez citoyens, parce que l'un n'efface pas l'autre. Au contraire, les deux font de vous un citoyen idéal, parce que l'islam rappelle que pour être un bon musulman, il faut être un bon citoyen. Ben, c'est le message que la Grande Mosquée de Paris essaye de transmettre, et c'est pour cela qu'elle est aujourd'hui vent debout contre toutes les formes de discrimination, et notamment contre les attaques ignobles que subissent les musulmans, que subissent les mosquées. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui ces discriminations dont font l'objet les musulmans de France. Et je crois que c'est le message fondamental de la Grande Mosquée de Paris ce soir.
Chemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, au micro de François-Xavier de Calonne. Et de nombreuses personnalités politiques étaient présentes hier lors de cet anniversaire. Parmi elles, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui parle d'un lien entre la France et l'islam, un lien qui se construit, se protège et se transmet.
Depuis 100 ans, la Grande Mosquée de Paris se tient immuable au cœur de Paris et donc au cœur de la République, comme le témoignage vivant d'une histoire ancienne, dense, parfois complexe, mais indissociable entre la France et l'islam. 100 ans après son inauguration, nous ne commémorons pas seulement l'édification d'un bâtiment. Nous regardons l'histoire en face, nous honorons une mémoire, nous considérons l'avenir. Il y a 100 ans, le premier rédacteur de la Grande Mosquée de Paris, si qu'à dire Ben Gabrit, parlait de l'union éternelle de la France et de l'islam. Pourtant, rien n'est jamais acquis, et ce lien se construit, se protège, se transmet. Cet édifice, depuis 100 ans, est un des lieux, parmi les 2500 mosquées que compte aujourd'hui le territoire national, où cette œuvre se poursuit. Cela fait de ces pierres dont nous fêtons le centenaire, des pierres bien vivantes, des pierres qui sont très précieuses aussi, évidemment, à nos yeux.
Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.